Le camion poubelle est prêt pour aller vider toutes les poubelles de la ville. Allons-y les enfants, suivons-le.
What's your message to world leaders today? Bonjour et bienvenue dans l'émission Zoom Écologie sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. C'est à nouveau une émission pré-enregistrée pour garder nos distances de sécurité. Et aussi, bien par nécessité, puisque aujourd'hui nous avons un invité qui nous vient de Toulon. William Acker, bonjour.
Bonjour.
William Acker, vous êtes juriste et vous êtes aussi auteur de nombreux articles. Vous écrivez sur les conditions d'hébergement des personnes classées gens du voyage en France. Vous êtes auteur de plusieurs articles, vous êtes très actif aussi sur les réseaux sociaux et vous programmez la parution d'un livre fondé sur vos recherches, qui sont des recherches qu'on pourrait dire à la fois géographiques, sociales et écologiques, puisque vous cartographiez les aires d'accueil des gens du voyage en France et vous mettez en avant ce qu'on pourrait appeler des injustices sociales et environnementales, puisque ces aires d'accueil semblent situées en majorité à côté d'installations polluantes, dangereuses, ou tout simplement laides et isolées. Vous mettez en avant qu'il y a des usines, des autoroutes, des échangeurs, des déchetteries, ou des sites Céveso et des cimetières. Bref, qu'on fait face à une situation d'indignité en France dans la gestion de ces aires d'accueil. Ça vaut la peine peut-être de commencer par faire un petit point juridique pour nos auditeurs et nos auditrices qui ne seraient pas tout à fait familiers ou familières du sujet. Déjà, qu'est-ce qu'un terrain d'accueil gens du voyage et comment ça fonctionne en France ?
À la fin du 19e siècle, en France, on a commencé en fait à recenser les bohémiens, donc qui n'avaient pas encore de statut, donc on appelait ces gens des bohémiens, qui sont qualifiés par ailleurs par les sciences humaines et sociales de Tziganes. Donc on a commencé ce recensement en fait pour préparer une loi en 1912 qui était la loi qui concernait en fait, qui créait le statut de nomade. Et en créant ce statut de nomade, on a créé à côté tout un cadre juridique spécifique avec un carnet anthropométrique, un fichage aussi, donc avec des mesures des membres, etc., vraiment dans la droite logique de l'anthropologie du début du XXe siècle. Des conditions, évidemment, d'accueil, enfin, on parlait pas d'accueil à l'époque, hein, mais le carnet anthropométrique, en fait, faisait que vous pouviez accéder à une ville à condition d'avoir un visa, donc qui était en règle générale des visas de 2 jours. Donc, en fait, il y avait une forme d'errance institutionnalisée où vous étiez obligé de partir tous les X jours de ville. On pouvait vous refuser, etc. Bon, bref, il y avait vraiment un cadre légal très spécifique, pas de citoyenneté, évidemment. Et il y a eu donc une période d'internement pendant la Seconde Guerre mondiale à partir de 1940. On a commencé à assigner les nomades, hein, les assigner, ensuite à les interner dans les camps d'internement et de concentration français. Il y a eu également des déportations, etc. Et cette période d'internement s'est achevée en 1946, à l'été 1946, donc beaucoup plus tard que le reste de la population. Simplement parce que cet internement était aussi avait également des visées de sédentarisation déjà. Donc on espérait en fait sédentariser les populations nomades pour qu'elles deviennent des populations, on va dire, civilisées. C'était un peu l'idée, hein. Après la guerre, donc on a commencé à réfléchir à changer ce statut de nomade parce que moralement elle était plus tenable. Il rappelait une période extrêmement sombre. Sachant qu'en plus, il y a eu un certain nombre de nomades qui ont été déportés sous le statut racial de Tzigoïner, donc de Tziga, dont 3 qu'on voit qui sont partis du nord de la France. Et en 1969, on aboutit à une nouvelle loi qui crée la catégorie administrative de gens du voyage, qui est l'héritier beaucoup plus juridique, moralement plus soutenable. On a remplacé le carnet anthropométrique par des livrets, des carnets de circulation. Donc il n'y avait plus les mesures anthropométriques, évidemment, à l'intérieur, mais on était toujours dans cette logique de contrôler la mobilité et toujours dans une sorte de logique qui vient à rendre, en tout cas, la mobilité ou criminelle ou suspecte. Les gens du voyage, à partir de 69, ont fait l'objet aussi de plans de sédentarisation. On a commencé à créer des cités gitanes, des hameaux tziganes, etc. Donc des lieux en fait qui venaient un peu officialiser ou en tout cas définir de manière géographique la présence de populations qui s'étaient sédentarisées parce que soit parce qu'elles étaient spoliées à l'issue de la guerre et donc elles n'avaient plus les moyens de voyager, soit parce qu'elles servaient de main d'œuvre à des industries et c'est le cas par exemple du hameau de Zigane au Plan de Grâce. On a eu des populations Sinté, donc Sinté piémontais, qui ont été fixées parce qu'elles servaient de main d'œuvre et elles servent toujours d'ailleurs de main d'œuvre à l'industrie du parfum. Et à l'issue donc de ces premiers plans de sédentarisation, on commençait à créer des aires dédiées aux gens du voyage. Donc déjà il y avait des typologies assez similaires aujourd'hui. On avait la typologie donc le terrain désigné. C'était un terrain que toutes les communes devaient avoir, c'est-à-dire que dès lors que des gens du voyage arrivaient dans une commune, on devait leur fournir un terrain pour au moins quelques jours, et des aires d'accueil fixes, les premières aires d'accueil donc dans les années 80. En 90, on crée la loi Besson qui vraiment institutionnalise ces aires d'accueil. Et en 2000, on a la deuxième version de la loi Besson qui crée le système actuel d'accueil avec une typologie assez simple, aires d'accueil, aires de grand passage et terrains familiaux. Les aires d'accueil, en fait, elles concernent uniquement l'accueil des gens du voyage de manière temporaire sur des petits groupes. On parle d'accueil de l'ordre de 3 mois qui peuvent aller jusqu'à 9 mois selon les aires d'accueil et selon la politique locale. Les aires de grand passage, elles sont vraiment dédiées aux gens du voyage en grand groupe. Donc on parle de plus de 50 caravanes en règle générale qui arrivent d'un coup, souvent pour des missions religieuses ou alors pour des voyages estivaux qui sont régulièrement menés aussi par des associations par exemple. Donc on a cette typologie de 3 quarts hein, avec les terrains familiaux aussi qui concernent ceux qu'on appelle ceux que l'administration qualifie en tout cas de gens du voyage sédentaires. D'ailleurs qui est une qualification un peu bizarre
un peu paradoxale oui.
Très paradoxale et d'ailleurs qui démontre l'évidence, c'est-à-dire que la catégorie administrative de gens du voyage a un caractère éminemment ethnique même si le droit ne l'aborde pas de la sorte évidemment puisque ça serait inconstitutionnel mais on voit très bien qu'il y a un traitement très différencié et qu'il existe une catégorie de faits qui sont les tziganes et qui sont explicitement ou implicitement en tout cas visés par la catégorie administrative gens du voyage. Donc aujourd'hui quand vous êtes catégorisé gens du voyage par le droit administratif français, vous avez l'obligation de résider, en tout cas d'occuper un stationnement dans les aires d'accueil. Puisque l'article 1 de la loi Besson de 2000 dit très clairement que d'une part les gens du voyage sont des gens qui vivent en habitation mobile et dont l'habitat est traditionnel, c'est-à-dire qu'il exclut de facto ceux qui souhaiteraient vendre leur maison, vivre l'aventure itinérante en camping-car, par exemple. Donc eux, par exemple, n'auraient pas à vivre dans les aires d'accueil, hein, ils auraient d'autres lieux pour eux. Donc ça implique aussi une certaine héritage, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit traditionnel au sein d'une famille, que les parents, les grands-parents aient vécu de la sorte, etc. Donc l'accueil, c'est vraiment une question d'exercice du pouvoir unilatéral de la puissance publique sur des accueillis qui n'ont pas de choix des lieux d'accueil. Il faut savoir aussi qu'en 2012 et 2017, il y a eu deux questions prioritaires de constitutionnalité qui sont venues tour à tour, d'une part, abolir le carnet et le livret de circulation, qui était en 2012, qui n'était plus soutenable moralement, là aussi, hein, puisque c'était plus normal d'avoir ces carnets-là, qui est venu aussi effacer la règle du quota de 3%, parce qu'il faut savoir qu'avant 2012, une commune ne pouvait pas domicilier sur l'ensemble de sa population plus de 3% de personnes catégorisées gens du voyage. Et en 2017, qui est venu totalement abroger la loi de 69, sans pour autant abroger la catégorie administrative de gens du voyage, ce qui est assez drôle et paradoxal là aussi. Ça ressort dans le dernier décret de 2019 sur les aires d'accueil. On a souhaité garder cette catégorie administrative de gens du voyage qui arrange bien les pouvoirs publics.
Merci, oui, donc on a vraiment l'impression d'une catégorie dont le contenu juridique est progressivement détricoté ou modifié, si bien que, comme vous dites, elle semble n'avoir de fondement que culturaliste ou ethnicisant.
Disons que sur le fondement juridique, aujourd'hui, à l'époque, il y avait plus de critères. Aujourd'hui, le critère principal, c'est l'habitation. C'est l'habitat mobile traditionnel. Mais évidemment, dans la mise en œuvre de la loi, même si... je peux tout à fait comprendre que l'esprit de la loi de 2000 n'ait pas eu cet objectif premier dans sa mise en œuvre et en pratique, en tout cas, puisque la mise en œuvre se fait quand même au niveau local, même si on la pense au niveau national, cette loi, elle est mise en œuvre au niveau local. Ben dans la mise en œuvre, oui, effectivement, on a une forme de traitement ethnicisant, ça c'est évident, puisque la majorité aujourd'hui de ceux qu'on appelle les gens du voyage sont des Roms, des Sintés, des Manouches, des Gitans, etc. Il y a aussi évidemment des personnes qui ne sont pas issues de ces minorités, mais n'empêche que la majorité, en tout cas, est issue des minorités, et que ceux qui ne sont pas issus des minorités sont quand même considéré comme une minorité de fait par les pouvoirs publics. Donc évidemment, il y a un caractère ethnicisant qui, à mon sens, est évident.
Et alors, cette loi Besson 1 et 2, est-ce qu'elle est respectée et est-ce que ces aires d'accueil existent en nombre suffisant et avec des équipements suffisants?
Non, pas du tout. C'est-à-dire que la loi Besson, en fait, prévoit logiquement que toutes les villes de plus de 5000 habitants doivent avoir des terrains d'accueil. Ce qui s'est passé en pratique, c'est qu'en 2011, on avait à peine 30% des réalisations prévues dans les schémas départementaux d'accueil des gens du voyage, et qu'aujourd'hui, on est à peine à 70% de réalisation. Donc, on voit en fait que les collectivités ont traîné des pieds, à tel point que la compétence de l'accueil, qui était celle des communes auparavant, s'est transférée aux EPCI, établissement public de coopération intercommunale, voilà. Donc, les agglomérations, les métropoles, etc., donc tous les groupements communaux, qui aujourd'hui ont la gestion en fait de l'accueil des gens du voyage, cette capacité-là, cette compétence, pardon. Et on remarque que depuis que les EPCI ont cette compétence, on a une tendance un peu à l'accélération des projets, qui met du temps parce que évidemment les élus qui sont présents dans ces collectivités n'étaient pas forcément habitués de cette compétence, donc il a fallu aussi du temps pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne, etc. Mais on voit en fait des collectivités qui traînent des pieds, des quatre fers pour réaliser ces terrains, parce que évidemment c'est une question d'ordre politique au niveau local, c'est très impopulaire de construire ce type de terrain. C'est un risque pris par les élus. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a transféré la compétence à l'EPCI et non plus à la commune, parce que les maires n'osaient pas très souvent ou refusaient parce qu'ils savaient que dans leur population, dans leurs administrés, ça allait pas passer. Donc on a un taux de réalisation qui est très inférieur à ce qui est attendu, surtout qu'on a permis aussi aux communes de plus de 5000 habitants de déroger à la règle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une commune de plus de 5000 habitants, si elle finance une aire d'accueil, si elle participe au financement d'une aire d'accueil sur une autre commune de l'agglomération ou de l'EPCI en question, elle peut très bien déroger aux obligations d'accueil. En tout cas, on considère qu'elle est conforme aux obligations d'accueil. Et à partir du moment où elle est conforme aux obligations d'accueil, elle a la possibilité d'expulser beaucoup plus facilement toute personne en installation illégale. Donc c'est ça aussi qui a motivé énormément les collectivités à se mettre en conformité avec les schémas, parce que on a prévu des gages, en fait, des contreparties pour les collectivités. D'un côté, si elles se mettent en conformité avec le schéma d'accueil, ben de l'autre, elles peuvent plus facilement expulser, ce qui devient aujourd'hui un argument politique, là aussi complètement paradoxal, puisque pour beaucoup d'élus, se mettre en conformité avec le schéma d'accueil, c'est plutôt avoir une possibilité supplémentaire d'expulser.
D'expulser donc les personnes qui vivent sur des terrains qui ne sont pas officiellement terrains d'accueil.
Oui, les personnes qui s'installent en dehors des aires d'accueil, puisque la loi Besson prévoit que toute installation doit être dans un terrain dédié, donc une aire d'accueil.
Donc ça peut justifier une répression qui, de toute façon, a lieu.
Ah ben complètement, c'est-à-dire que sur le terrain, on observe une répression qui a lieu toute l'année, non-stop, avec des expulsions à répétition. Mais là aussi, c'est assez paradoxal parce que sur les aires d'accueil, vous avez, ce sont donc des aires de passage, hein, puisque les gens ne sont pas censés s'y fixer. Donc vous avez des limites dans le temps, vous pourrez rester 3 mois, 6 mois, 9 mois, parfois moins aussi. Et on remarque des pratiques complètement illégales d'augmentation tarifaire au mois par mois. Hein. Vous restez un mois, au bout d'un mois, vous augmente de 30% les tarifs sur les aires, etc., hein, qui visent à faire partir les gens, en fait. Voilà. Et puis, il y a aussi des départements qui ont tellement peu d'infrastructures d'accueil qui se retrouvent avec des populations qui se fixent sur les aires, qui ne peuvent plus partir, qui n'ont plus les moyens de voyager et qui se retrouvent fixées sur les aires. Et donc, il n'y a plus de place pour les gens de passage. On a des départements extrêmement problématiques comme ça, c'est le cas de la Seine-Saint-Denis par exemple, où il est devenu très compliqué pour les personnes de passage de trouver des terrains d'accueil.
Que dit la loi en matière de fourniture ou d'accès sur les aires à un certain nombre de services sanitaires comme l'eau, l'électricité, les toilettes, etc. Et aussi peut-être à l'accès à ce qu'on appelle les aménités environnementales, c'est-à-dire au fait de jouir tout simplement d'un espace propre, agréable ou en tout cas sain, ou en tout cas non dangereux. Que dit la loi là-dessus ? Est-ce qu'il y a un encart dans cette fameuse loi Besson 1 ou 2 qui précise qu'il ne suffit pas d'avoir des mètres carrés, mais peut-être aussi de l'air, de l'eau, etc.
Alors, la loi Besson, elle prévoit pas grand-chose en la matière, c'est surtout les décrets, en fait, hein, d'application, qui jusqu'à là, on prévoyait pas énormément de choses, enfin, n'était pas hyper explicite sur tous les points, ce qui a permis à énormément de collectivités de faire les choses à minima et d'installer des aires dans des endroits impropres à la vie, et surtout de faire le strict minimum en termes d'installation. Aujourd'hui, il y a eu en décembre 2019, il y a eu un décret d'application de la loi de 2017 qui est venu vraiment compléter ces règles, on va dire, d'urbanisme, en tout cas d'installation, qui sont un peu plus complètes. Mais en réalité, il n'y a pas vraiment grand-chose de prévu sur les questions de cadre de vie, sur la question de la localisation des aires, etc., etc. Et ce décret se contente de déterminer le minimum, en fait, d'installation. Donc on a eu aussi un avant et un après Sarkozy, parce que Sarkozy a fait en sorte d'avoir les nouvelles versions des aires d'accueil, c'est-à-dire des aires d'accueil avec des blocs individuels, puisqu'avant c'était surtout des blocs collectifs. C'est-à-dire qu'actuellement, sur les nouvelles aires d'accueil, vous avez un emplacement de minimum 75 mètres carrés, voilà, au sol. Donc il faut bien se figurer aussi qu'il y a une ou deux caravanes qui rentrent sur l'emplacement, plus les véhicules, donc c'est pas grand du tout, hein. Plus un bloc sanitaire qui comprend en règle générale un lavabo, des toilettes, et quand c'est vraiment luxueux, enfin, on a aussi une petite cuisine, voilà. Mais sinon, ça c'est la nouvelle version des aires, voilà. Mais ça reste la minorité des aires, puisque la majorité des aires ont été construites avant cette nouvelle version. Et la majorité des aires, ce sont donc de grandes étendues de goudron, clôturées évidemment, avec des emplacements dessinés au sol et un bloc sanitaire collectif en plein milieu. Et dans toutes les aires, on retrouve une maison de gardien, parce que toutes les aires sont gardées et surveillées par ce qu'on appelle des gestionnaires, et ce que les gens du voyage appellent, eux, des gardiens, pour tout un tas de raisons.
Donc ça ressemble finalement à des parkings ?
Ça ressemble à des parkings, tout à fait. Alors après, sur les nouvelles versions des aires, on a ceux qui se contentent du strict minimum. On a également, de mémoire, certaines obligations en termes d'aménagement végétal, c'est-à-dire que il faut quelques arbres sur les aires, voilà, pour avoir de l'ombre, par exemple. Mais ça reste une minorité infime des aires d'accueil qui sont végétalisées. Donc c'est vraiment un parking clôturé dans une zone à l'écart avec un gardien, une surveillance, de la vidéosurveillance aussi maintenant.
Il y a des caméras.
Oui, il y a des caméras. Bien sûr qu'il y a des caméras, et c'est là tout le paradoxe aussi, parce qu'en fait l'aire d'accueil, c'est pas vraiment considéré comme un espace d'habitation. Ce qui fait que on considère en fait que la caravane est l'espace d'habitation, et donc on peut filmer aux sorties des caravanes, quoi. Donc il y a des aires d'accueil avec des vidéosurveillance évidemment dessus. D'ailleurs, il y a des sociétés spécialisées dans la sécurisation. Ils appellent ça des aires d'accueil. C'est assez drôle en fait, hein, puisque certaines aires d'accueil finissent par se transformer en une sorte de bunker en fait, où on a des aires anti-intrusion, des vidéosurveillance, les maisons des gardiens ont des barreaux aux fenêtres, des portes blindées. Enfin, on est dans une espèce de psychose et de course à la sécurisation. On se retrouve avec des aires d'accueil qui ressemblent à des camps. Dans la définition et dans l'effet, en tout cas, que ça produit sur les habitants des aires, en tout cas dans le sentiment que ça produit sur les habitants des aires, il est clair qu'on a une forme d'encampement qui est systémique, enfin qui est organisé en réseau d'aires d'accueil. Voilà, tout à fait. On n'est pas l'aire d'accueil porte très mal son nom en fait. C'est-à-dire que c'est très rare d'avoir une aire qui accueille vraiment. On a plutôt des aires qui servent de stockage de population, voilà, qui servent de mise à l'écart souvent de population.
Quelles sont les sociétés qui administrent ces aires?
La gestion est publique. Donc la gestion peut être conservée par les EPCI qui peuvent très bien envoyer des agents territoriaux travailler sur les aires, donc servir de gestionnaire, auquel cas l'aire est sur une gestion publique. Mais elles ont aussi la possibilité de déléguer ces gestions publiques par tout un tas de contrats différents, dont la délégation de services publics, qu'elles peuvent utiliser auprès de gestionnaires privés. Et les gestionnaires privés, aujourd'hui, ils sont, on décompte à peu près une dizaine en France, vraiment d'importants, on va dire. Après, il y a d'autres sociétés. Ces sociétés de gestion, c'est assez drôle parce que c'était souvent des sociétés de rénovation de terrains vagues ou de gardiennage, de ce genre de choses, qui se sont subitement reconverties en 2000 lors de la loi Besson et qui sont devenues des spécialistes de la gestion des gens du voyage très très vite. Et donc, ce sont des sociétés qui font du business, hein, tout simplement. On estime, je crois qu'en 2011, c'était 60 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Alors évidemment, aujourd'hui, ça a dû augmenter vu que l'offre d'air d'accueil a augmenté depuis. Ces sociétés de gestion, c'est les sociétés Vago Gestion, c'est les sociétés Vesta, c'est les sociétés GDV, etc. Enfin, elles ont plein de noms différents. Il y en a beaucoup qui ont leur siège social dans la même ville, c'est assez drôle. Et surtout, il y en a beaucoup qui partagent des liens assez étroits entre les sociétés de gestion et les sociétés qui vendent de la télésurveillance. Voilà. Donc elles raflent les contrats publics qui sont émis par les EPCI, et puis en même temps, elles en profitent pour vendre leur système de surveillance sur les aires d'accueil.
Tout un modèle. Merci William Acker. Je vous propose de faire notre première pause musicale. Je crois que vous aviez un ou deux morceaux que vous voulez nous faire écouter.
Oui, on va peut-être écouter Minor Swing, donc qui est joué par un guitariste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Yorgi Lafleur.
De retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, vous écoutez l'émission Zoom Écologie et je suis ce soir en compagnie de William Acker, juriste et auteur de plusieurs travaux sur la géographie sociale et écologique des aires d'accueil des gens du voyage. William Acker, vous avez commencé ce travail de cartographie des conditions de vie des habitants et habitantes des aires d'accueil à partir d'un accident précis, l'accident à l'usine Lubrizol à Rouen, avec donc cet incendie, parce que vous aviez réalisé que juste à côté de ce site classé Céveso, eh bien, il y avait une aire d'accueil des gens du voyage et que ces personnes avaient été parmi les dernières à être prises en charge ou en tout cas à être informées de la situation.
Oui, en fait, c'est une question qui me traverse depuis un moment parce que forcément, quand on a vécu sur les aires d'accueil, on connaît cette problématique du fait que les aires d'accueil sont toujours situées à côté de déchetteries, de stations d'épuration, d'autoroutes, etc. À tel point qu'il y a un dicton assez populaire chez les voyageurs qui dit « si tu trouves pas l'air, cherche la déchetterie ». Donc c'est un peu un humour voyageur, hein. On est toujours en train de tourner la dérision de nos situations, mais c'est aussi une vérité, hein. J'avais cette question-là à cœur déjà. J'avais une amie qui est anthropologue, qui travaillait aussi sur cette question, qui s'appelle Lise Foineau. D'ailleurs, c'est toujours mon amie. Je sais pas pourquoi je parle d'elle au passé. Elle va pas apprécier. Et donc, elle avait publié un article tout à fait innovant sur la question, puisque en fait, c'est une question qui est très très peu traitée. Et son article reprenait donc des chiffres officiels qui démontraient que les gens du voyage avaient une espérance de vie de 15 ans inférieure à la moyenne nationale. Et elle a fait le lien, forcément, elle faisait déjà le lien avec les situations des lieux de vie, hein, l'environnement immédiat des lieux de vie, qui est un des facteurs indéniables du fait que les gens du voyage aient une espérance de vie plus courte. Et forcément, quand Lubrizol est arrivé, c'était un jeudi matin, je me réveille et puis j'allume ma télé et je vois que cette usine prend feu, je fais pas tellement attention, mais quand je vois que c'est une usine Céveso, tout de suite, ça me rappelle toutes les aires d'accueil qu'on connaît en site Céveso. Notamment une qui est très proche de chez moi, qui est l'aire de Saint-Menet, dans les Bouches-du-Rhône, qui est située en plein sur un site Céveso. Et donc, j'ouvre le schéma départemental de Seine-Maritime et je vois, qu'est-ce que je vois? Une aire d'accueil au pied de Lubrizol, comme c'est étonnant. Et on a tout de suite appelé avec Lise Foineau et Valentin Merlin, donc avec qui je travaille, on a tout de suite appelé les métropoles, on a appelé la mairie, on a appelé la préfecture. Évidemment, tout le monde était en situation d'urgence, donc personne n'a réellement su nous répondre, mais on s'est vite rendu compte qu'en fait, personne s'était préoccupé des habitants de l'aire d'accueil. Et on a réussi à rentrer en contact avec les habitants. Lise et Valentin sont partis sur place et sont restés pendant plusieurs semaines. Et on s'est rendu compte qu'en fait personne n'était venu les voir. On était venu les voir seulement 3 jours ou 4 jours après l'incendie pour réclamer les loyers. Mais en attendant, pendant 3-4 jours, ils étaient confinés dans leur caravane, dans les fumées. Il faut savoir qu'une caravane n'est absolument pas étanche. L'aire d'accueil n'était pas aux normes puisqu'elle n'avait pas de local de confinement, alors même qu'elle est située entre 2 sites Céveso. C'est pas un seul, hein, c'est 2. Hein. Donc dans une zone industrielle, elle jouxte l'installation de Total aussi, de lubrifiants. Donc autant vous dire que si l'incendie s'était un peu étendu, ils y passaient tous. Et surtout, on leur a interdit de sortir avec leur véhicule. Et il faut savoir quand même qu'on a affaire à des populations qui sont précaires pour beaucoup. En fait, la plupart des gens qui sont fixés sur les aires d'accueil à l'année, ce sont des gens qui sont précaires. Eux, c'est le cas. Et donc, ils n'ont pas les moyens d'abandonner leur véhicule. C'est leur chez eux, quoi. C'est pas possible. Et donc, ils ont été complètement abandonnés. Paris Normandie avait fait un très bel article comme ça en parlant de maltraitance institutionnelle, mais c'était un peu la vérité. Et le lundi suivant, Lubrizol, on a un ami qui, par ailleurs, est juriste aussi, qui est parti à la Commission européenne lors d'une réunion sur le mal logement et notamment des populations roms, et qui évoque donc ce problème en fait des récurrences de localisation d'aires d'accueil à proximité de sites Céveso. Et la représentante du gouvernement, donc de la direction du logement, de la DIAL, lui a répondu que c'était un argument démago et qu'il n'avait pas de données pour le prouver. Et effectivement, il n'y avait pas de données qui existaient en fait. Et c'est de là que le recensement est parti. La puissance publique ne produira pas ces données parce qu'elle n'a aucun intérêt à les produire. Et les seuls qui peuvent produire les données, ce sont les voyageurs eux-mêmes en fait. Et donc c'est pour ça que j'ai mené ce recensement. Donc l'idée, c'était d'avoir une recherche qui soit participative avec les habitants des aires d'accueil, donc qui puissent expliquer, en tout cas interpréter ces données, donner leur point de vue, leur ressenti sur la cartographie aussi, parce que vu que je me sers beaucoup des cartographies satellites pour montrer la situation des aires d'accueil, bah, il faut mettre des mots sur ces cartographies, il faut les rendre sensibles. Et c'était aussi l'idée de faire participer les habitants directs des aires d'accueil. Et donc voilà comment je procède. Et aujourd'hui, j'ai réussi à recenser un peu plus de 600 aires d'accueil sur plus d'une quarantaine de départements. Donc il m'en reste encore la moitié à faire, évidemment. Mais déjà, sur cet échantillon, qui est quand même conséquent, puisque c'est près de 50% des aires françaises, on se rend compte, enfin en tout cas je me rends compte, que plus de 80% des aires d'accueil sont carrément situées en dehors des zones habitées. Donc on les met soit dans des sites industriels, soit dans des zones artisanales et commerciales, ou alors aux frontières communales. À tel point qu'il y a des aires qui sont assez drôles, comme ça, j'ai une aire où vous rentrez dans l'aire, en France, vous êtes en France hein, quand vous rentrez dans l'aire, et puis au fond de l'aire, c'est la Suisse. Voilà, donc plus loin, c'est la Suisse, on peut pas aller plus loin. Mais pour donner un peu l'illustration de la localisation des aires d'accueil, en fait, hein, les récurrences des choix de localisation des pouvoirs publics sur ces terrains d'accueil. Et forcément, lorsque l'on éloigne au maximum les aires d'accueil des autres riverains, on doit aussi trouver un terrain qui soit économiquement viable, c'est-à-dire pas trop cher, parce qu'on veut jamais dépenser trop des fortunes pour les gens du voyage. Donc bah, forcément, on cherche des terrains qui sont peu attractifs, qui sont facilement raccordables à l'eau et à l'électricité, et puis bah, comme ça, on tombe à côté d'installations industrielles, d'autoroutes, de cimetières, etc. Et les aires d'accueil, aujourd'hui, sur mon échantillon de plus d'une quarantaine de départements, il y a 63% des aires d'accueil qui sont situées dans des sites soumis à nuisances industrielles ou environnementales. Voilà. Donc il y a une récurrence, il y a une discrimination environnementale qui est évidente, et puis on peut faire le lien très facilement, puisque ces lieux ne sont réservés qu'aux gens du voyage, donc on vise explicitement les gens du voyage, et des discriminations qui sont systémiques. Voilà. C'est-à-dire que dans les choix de localisation et dans les processus qui mènent à ces choix-là, on a des récurrences de considérations anti-tziganes, parce qu'il faut parler avec justesse, donc des considérations anti-tziganes qui considèrent que le genre du voyage ne peut pas se concevoir en dehors d'un camp et que ces camps doivent être éloignés des villes au maximum.
Pour rebondir là-dessus, hein, il y a une expression qui a été forgée aux États-Unis dans le cadre d'un rapport qui s'appelle Toxic Waste and Race in the United States, donc déchets toxiques et race aux États-Unis. Et c'est ce rapport qui a proposé l'expression de racisme environnemental, hein, pour désigner le fait qu'un groupe social minoritaire et racisé par la puissance dominante subit une part disproportionnée des nuisances environnementales d'un pays ou d'un territoire. Donc pour les États-Unis, ça s'appliquait surtout au cas des Noirs américains ou des Hispaniques ou des Amérindiens, et qui étaient en général des couches particulièrement pauvres de la population et qui se retrouvaient les plus exposés. Donc on peut appliquer cette expression de racisme environnemental à la situation des gens du voyage en France, considérant donc les aires d'accueil dont ils héritent.
Ça a été fait le 8 avril 2020 par le Bureau européen de l'environnement et l'Ergo Network, qui est en fait un conglomérat des mouvements grassroots roms d'Europe, qui eux ont travaillé sur l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Et d'ailleurs dans un rapport qui est assez similaire dans le nom que vous m'avez cité, puisqu'il s'appelle Pushed to Westland aussi, Environmental Racism Against Roma Communities in Central and Eastern Europe. Pardon pour l'accent, mais voilà qui est dit. En tout cas, ce rapport, il parle aussi de racisme environnemental à partir d'une cinquantaine de cas d'études quand même, donc assez conséquent dans plusieurs pays d'Europe. Il travaille notamment sur les questions des ghettos roms en Europe de l'Est, et il décrit très clairement ces processus et de racisme environnemental, d'injustice environnementale, et ces processus, on les retrouve complètement en France. C'est-à-dire, on les retrouve à la fois dans les typologies de terrains habités par les populations roms dites nouvelles arrivantes, c'est-à-dire les roms de Roumanie pour la plupart, d'Europe de l'Est qui sont arrivés dans les dernières décennies, et qui sont des populations extrêmement marginalisées, extrêmement peu intégrées par notre pays, qui vivent beaucoup dans des squats ou dans des bidonvilles, puisque là aussi c'est important d'utiliser les mots. Mais on parle également des travelers dans le rapport, donc des gens du voyage, ou des travelers anglo-saxons, et des lieux d'accueil évidemment qu'on leur réserve. Récemment, la commissaire européenne à l'égalité a aussi parlé donc des inégalités environnementales qui étaient qui était appliqué en tout cas aux gens du voyage français. Donc on a oui, on a tous les faisceaux d'indices qui démontrent vraiment un système de racisme environnemental. Alors moi c'est vrai que j'utilise pas vraiment ce mot-là parce que sinon on retourne tout le temps l'argument juridique de base en me disant que la catégorie administrative de gens du voyage ne vise pas explicitement un groupe racial. Mais en tout cas, je vous en ai parlé en début, en introduction, évidemment, il est évident pour moi qu'il y a un caractère ethnique dans la catégorisation de gens du voyage. Et en tout cas, qui vise explicitement des minorités, et donc on est sur une typologie de terrain d'études qui sont parfaites pour ça, parce que on a à la fois des lieux qui sont d'une typologie très simple. Il y a trois typologies, hein, grand passage, aire d'accueil et terrains familiaux. Des lieux qui sont explicitement réservés à une catégorie de population qui est considérée comme une minorité en France, donc les gens du voyage, et des lieux qui font l'objet d'un choix public. Donc on peut pas avoir un terrain d'étude plus explicite que ça pour décrire le racisme environnemental qui est systémique, public et organisé par l'État. Et c'est là que ça devient absolument passionnant, et c'est là que on comprend pas que des chercheurs ne s'en soient pas saisis avant, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu vraiment de recensement ayant cet objet-là, d'analyser les aires d'accueil dans leur environnement, en fait, et de les analyser au prisme de la question environnementale.
Je me permets, du coup, pour nos auditeurs et nos auditrices, de citer certaines de vos légendes de cartographie, puisque on est à la radio, c'est difficile de parler d'images, puisqu'on ne peut pas les montrer. Donc simplement, voilà, pour citer un de vos articles, une petite enquête sur le 78 que vous avez publié en ligne, où vous montrez ces photos satellites des aires d'accueil. Et donc, pour donner un petit peu une idée à nos auditeurs et auditrices, je me permets de lire certaines de vos légendes. Aire d'accueil des Mureaux, à l'écart, en zone industrielle, modèle d'inclusion. Aire d'accueil de Limay, entre deux départementales et une station d'épuration, dois-je préciser son isolement. Aire d'accueil de Saint-Germain-en-Laye, l'ignoble aire d'accueil, située en plein cœur d'une des plus grandes et dangereuses usines de traitement des eaux de France, un site Céveso au seuil. Et vous précisez qu'il y a eu plusieurs accidents. Ou encore, aire d'accueil de Conflans-Sainte-Honorine, en zone industrielle, isolée du reste de la ville et proche d'une déchetterie. Là aussi, c'est une coutume. Donc ça, ce sont des exemples tirés du 78 où vous montrez bien qu'il y a quand même un petit peu un schéma qui se répète, à savoir l'exclusion de la ville, la proximité des nuisances, les cimetières aussi souvent, et puis la présence d'un danger, hein, que ce soit une usine, une pollution de l'air, ou des voies de passage rapides comme des autoroutes ou un chemin de fer. Et vous soulignez bien, je trouve que voilà, ça montre bien le côté un petit peu serpent qui se mord la queue du racisme à la française, on va dire, c'est-à-dire on met des populations dans un endroit particulièrement isolé et isolant, et après, on ne cesse de dire dans les médias qu'il y a un problème d'intégration. Je crois que c'était Manuel Valls, hein, qui disait que ce sont des populations très différentes des autres, qui ne parviennent pas à s'intégrer à cause de leur culture, etc. Et je trouve que ce que vous mettez bien en avant, c'est que comment s'intégrer, ou ne serait-ce que créer du lien social, quand on vit dans ces endroits si difficiles d'accès, en tout cas à pied.
Bah complètement. C'est-à-dire que les discriminations, en tout cas l'effet communautaire que l'on reproche, tous les clichés, les préjugés, etc., ils sont complètement alimentés par le traitement de ces populations, le traitement public. C'est-à-dire que si vous mettez des gens systématiquement à l'écart des villes, que depuis 150 ans vous les traitez avec des statuts juridiques spéciaux, qui évidemment impliquent un traitement administratif, policier, médiatique extrêmement discriminatoire, ben vous en arrivez au résultat que dès lors qu'une population va adopter une position de défense face à ces agressions, vous allez l'accuser de communautarisme et de mal se comporter et de ne pas s'inclure. Voilà. Et c'est exactement ce qui se passe avec les gens du voyage depuis des décennies. Il faut quand même préciser qu'aujourd'hui, les gens du voyage, hein, c'est en tout cas ceux qui sont catégorisés ainsi, c'est à peu près 300 000 personnes en France, qui ont à peu près 100 000 personnes qui sont itinérantes. Donc ça veut dire que l'immense majorité sont des sédentaires. Donc ils devraient même pas être catégorisés de gens du voyage, mais qu'ils le sont quand même, et qu'on estime que les gens qui ont des origines issues de ces minorités, donc des minorités Sinti, Manouche, Gitane, etc., que ces gens-là, c'est environ 1 million de personnes en France. Donc Forcément, si on met toujours la focale médiatique sur les seuls itinérants et les seuls qui créent, on va dire, des problèmes, parce que le traitement médiatique ne focalise que sur les personnes qui commettent des délits, il faut le dire aussi, c'est une réalité, on a une représentation collective de ce que sont les gens du voyage complètement erronée. Aujourd'hui, quand vous êtes un voyageur, si moi demain je commets un vol dans un magasin, j'aurai le droit à un article dans la presse locale qui dira « William Acker, un homme de 27 ans, issu des communautés des gens du voyage, a commis un délit ». Or, moi, je pourrais jamais vous opposer la phrase suivante en disant « issu des communautés des gens du surplace ». Ça, c'est pas possible. Voilà. Donc ça, il y a quand même un privilège de la majorité sur la minorité et une forme de systématisation du traitement médiatique qui fait que ben, on a une vision complètement dégradée, en fait, et avilissante de ce que sont les gens du voyage. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Et ce qui fait aussi que lorsque vous habitez dans une ville et que en 2016, dans une ville à Pétaouchnok dans la France, il y a quelqu'un qui s'est installé, une famille qui s'est installée à côté de votre terrain, que leur vue vous était complètement insupportable, que vous avez fantasmé complètement sur les vols de cuivre, etc. dans votre ville, et les trois poubelles qu'ils ont laissées en partant parce qu'on ne leur a pas mis de benne à ordures, puisqu'ils n'ont pas été accueillis convenablement, eh ben vous focaliserez sur cet exemple-là, en vous disant « les gens du voyage, c'est ça ». Mais à côté, l'aire d'accueil qui est dans votre ville, que vous ne connaissez même pas parce qu'elle est située dans un terrain qui est tellement isolé de la ville que personne ne la connaît, aura accueilli 5 000, 10 000, 15 000 personnes sur une période de 2 à 3 ans et vous n'en aurez jamais entendu parler. Ce qui veut dire que vous allez vous focaliser uniquement sur le cas qui a créé un problème à un moment T. Et cette fameuse formule issue des communautés des gens du voyage est absolument magique pour ça. Elle permet de répercuter un comportement individuel sur toute une communauté. Et c'est ce qui est fait dans le traitement médiatique depuis des décennies. C'est réutilisé dans les traitements politiques, puisque vous l'avez cité à très juste titre, vous avez cité Manuel Valls, qui était un peu l'emblème hein, de l'anti-tziganisme à partir des années 2010. Mais le traitement anti-tzigane et le discours anti-tzigane dans la parole politique, c'est un discours qu'on entend depuis des décennies et qu'on entend toujours aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et ce qui est assez dingue, c'est que les élus les plus virulents en la matière, donc à l'Assemblée nationale, sont aussi tous membres du groupe d'études de l'Assemblée nationale qui est dédié aux gens du voyage. Donc en fait, on a un groupe d'études qui nous est réservé, qui nous étudie, on ne sait pas comment, puisque l'ensemble de ces travaux sont secrets, en tout cas, il n'y a pas de publication officielle. Ils nous étudient, reçoivent évidemment tous les professionnels de l'accueil qui vont leur dire que faire avec les gens du voyage, voilà, comme si ces gens-là étaient les mieux placés pour parler. Et ils vont pondre des rapports, alors même que tous ces élus sont fondamentalement opposés à recevoir des gens du voyage dans leur ville. Donc on est quand même dans un système complètement dingue et qui est un cercle vicieux, un axe médiatique, un axe politique et un axe d'élus locaux qui vont alimenter une haine de façon circulaire et qui s'auto-alimentent. Et on a comme ça, au niveau local, des axes très clairs entre les médias locaux, les élus anti-tzigane et la police, avec un système répressif qui se met en place. Et ça, on retrouve ça sur... je vais pas donner de chiffres parce que j'ai pas d'études précises là-dessus, mais moi, mon ressenti, c'est qu'on retrouve ça sur bien la moitié des collectivités françaises.
Oui, on voit bien hein, le lien assez fort de ce que vous dites, hein, le service, le serpent qui se mord la queue entre racisation a priori, hein, on crée une catégorie, et puis les gens qui deviennent suspects en eux-mêmes, simplement voilà. Par leur mode de vie qu'on leur a imposé.
Qu'on a imposé et qu'on a théorisé, c'est-à-dire que si on a criminalisé la mobilité en France, c'est parce qu'à un moment donné, dans le discours politique et scientifique, on a inventé le nomadisme tzigane. Déjà, on parle de tzigane, qui n'est pas un mot qui est forcément reconnu par les concernés, hein, les populations eux-mêmes. C'est un mot qu'on leur a attribué, la science a attribué ce mot-là, pour dénommer tous les peuples, on va dire, tziganes. Mais on leur a accolé un mode de vie, le nomadisme, qui est un mode de vie extrêmement minoritaire parmi tous les tziganes d'Europe. C'est extrêmement minoritaire. Et beaucoup de gens ont adopté ce mode de vie nomade parce qu'ils étaient chassés systématiquement des villes. Et aujourd'hui qu'on leur offre la possibilité de se sédentariser, on voit qu'un certain nombre de personnes retournent à des formes de sédentarisation, d'elles-mêmes. Donc ça veut dire que on a quand même un fantasme absolu sur le nomadisme tzigane, qui est une construction théorique, politique, et d'ailleurs les sciences humaines le démontrent très bien. Je vous invite à lire les articles d'Henriette Asseo à ce propos, mais qui rentre dans l'inconscient collectif et qui crée aujourd'hui cette situation de discrimination évidente.
Merci. On va peut-être se tourner vers un autre thème qui est plus d'actualité, à savoir la question évidemment de la crise sanitaire que nous traversons, puisqu'il me semble que voilà, elle rejoint un petit peu tous ces enjeux à la fois d'isolement, de confinement, c'est le cas de le dire, et aussi d'exposition au danger. Des personnes qui y habitent. Vous mentionnez tout à l'heure le fait que les personnes qui vivent en terrain d'accueil pour gens du voyage ont une espérance de vie moindre de 15 ans en moyenne des sédentaires. Est-ce que les populations de ces terrains ont été particulièrement touchées par la crise du Covid et surtout, comment ont-elles vécu le confinement? Puisque, c'est, encore une fois, est-ce que c'est possible de mettre sur un terrain d'accueil et de demander de se confiner, et ont-elles vécu plus de répression aussi par rapport à ça?
Pour se concentrer que sur les terrains d'accueil, en éludant la question des terrains privés, parce qu'il y a quand même beaucoup de voyageurs qui possèdent des terrains privés et qui se sont confinés dans ces terrains privés. Donc globalement, dans les terrains privés, la situation elle était plus ou moins stable, c'est-à-dire qu'on avait des installations qui étaient correctes. Quoique, j'y reviendrai après de toute façon, mais sur les aires d'accueil, il y a eu des cas très différents. Majoritairement, ça s'est, on va dire, plutôt bien passé. On peut pas dire que ça se soit mal passé majoritairement, enfin en tout cas à mon ressenti. J'ai pas les chiffres pour savoir si les gens du voyage ont été particulièrement touchés. Maintenant, j'ai quelques chiffres quand même. En Nouvelle-Aquitaine, par exemple, il y a eu près de 25 aires d'accueil qui ont été touchées par le coronavirus, dont une qui a été touchée, l'aire de Pressac, par plus de 34 coronavirus. Donc une expansion extrêmement rapide du virus lorsqu'il rentre dans ce milieu de confinement collectif, parce que sur une aire d'accueil, c'est très compliqué d'avoir un confinement individuel, surtout sur les anciennes versions des aires d'accueil qui ont des blocs sanitaires collectifs. Et oui, comment vous voulez vous confiner de manière individuelle si vous utilisez tous les mêmes toilettes, les mêmes douches, les mêmes robinets, etc. Donc ce qui fait que il y a eu des aires d'accueil où si une forme de confinement individuel était à peu près possible, la majorité des aires d'accueil devaient confiner de façon collective. Donc ce qui est évidemment, vu que les gens rentraient et sortaient pour aller faire leurs courses et avaient le droit comme tout le monde de rentrer et sortir pour un certain nombre de temps, etc. par semaine, bah, ça multipliait le risque de contamination par je ne sais combien. De la même façon, les aires d'accueil qui ont eu un confinement individuel, bah, il est un peu illusoire de croire que ça se soit vraiment passé à merveille, puisque faut le rappeler quand même, les emplacements des aires d'accueil, ce sont des emplacements de parking. Hein, donc il y a juste une ligne blanche dessinée au sol. Donc bah, si vous avez des enfants, vous n'allez pas les enfermer dans une ligne blanche toute la journée. Hein, je vous le garantis. Donc il y a des échanges qui se font. On peut pas confiner toute une famille dans 10 mètres carrés tout le temps. Donc forcément, les gens ont fait très attention, ça c'est clair. Les gens ont fait très très attention, ils ont eu très peur aussi majoritairement. Mais évidemment, c'est pas la même chose que se confiner dans une maison, ça c'est clair. Et le principal défi, en fait, au tout début, ça a été de voir comment allait évoluer la situation sur ces terrains d'accueil, qui ont été touchés très vite. À Cagnes-sur-Mer, très très vite, dès la mi-mars, il y a eu des cas de coronavirus sur les aires d'accueil. Il y a eu des morts aussi. Pas que sur les aires d'accueil, sur les terrains privés également. Et la problématique principale, au tout début en tout cas, c'était l'accès à l'eau. Parce qu'il y a un certain nombre d'aires d'accueil qui ont des installations sanitaires hyper précaires. Si je prends l'aire d'accueil de Petit-Queville en Seine-Maritime, c'est un bloc sanitaire qui est collectif. La moitié des douches ne marchent pas. Ils ont un ou deux robinets pour 75 personnes. Enfin bon, je vous laisse imaginer la catastrophe. Des aires comme ça, il y en a partout en France. Voilà. Donc ça, il y avait la problématique de l'accès à l'eau. Et sur les terrains privés de voyageurs, ce qu'il faut savoir, c'est que toute la discrimination systémique qui existe à l'encontre des aires d'accueil existe aussi à l'encontre des terrains privés. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas les voyageurs accéder à la propriété aussi facilement qu'on peut le penser. Les terrains qu'on leur laisse, ce sont des terrains souvent non constructibles. Et on a énormément de mal à accéder à l'eau. En fait, les élus locaux freinent aussi des quatre fers pour installer l'eau et l'électricité pour pas que les gens s'installent toute l'année. Ce qui fait qu'on a eu beaucoup de terrains qui se sont retrouvés confinés sans eau. Il y en a eu en Eure-et-Loire, il y en a eu dans le Var, pour ceux que je connais, qui depuis là, 2 mois, donc plus de 2 mois, depuis le début du confinement, n'ont pas d'eau. N'ont pas d'eau. Et quand on alertait les communes sur ces situations-là, elles renvoyaient la balle au préfet, le préfet renvoyait la balle à la commune, et les gens ne bougent pas. Et ça, c'est extrêmement grave, parce que sans eau, on ne peut pas avoir de gestes barrières, surtout dans des terrains où il y a un confinement qui est collectif, parce que bien souvent, ce sont des terrains qui sont familiaux, avec plusieurs familles à l'intérieur. Et ça devient aussi un danger sanitaire pour les autres de la commune. Et malgré cet état de fait, il y a eu énormément de communes qui n'ont pas procédé à des installations d'urgence d'eau. Voilà. Et qui continuent une forme de discrimination qui est systémique, normale dans leur fonctionnement habituel, et qui n'ont absolument pas décidé de changer pendant cette période de confinement.
Est-ce qu'on a observé, en termes d'information et de répression aussi, un traitement particulier ?
L'information, ça dépend vraiment de la localité, en fait. C'est-à-dire que vous avez par département, souvent, l'existence d'associations qui s'occupent, en tout cas, qui interviennent sur les arnaques, avec des travailleurs sociaux, etc. Lorsque ces associations existent, il y a eu un minimum d'informations. C'est-à-dire que les associations sont venues sur place, ont parlé aux gens, ou leur ont envoyé des SMS, les ont appelés pour leur dire les choses. Mais il y a des aires d'accueil qui n'ont absolument pas été visitées. Pas du tout. Donc, ce qui fait que vu que sur une aire d'accueil, on n'a pas accès au Wi-Fi, ça n'existe pas. Une partie des aires d'accueil sont en zone blanche parce qu'on les éloigne tellement des villes qu'elles captent même pas le téléphone. On a affaire à des populations qui sont souvent précaires, donc qui n'ont pas l'équipement nécessaire pour accéder forcément à l'information, qui se renseignent aussi beaucoup, comme tous les Français, sur les réseaux sociaux, avec toutes les dérives qu'on y connaît. Et donc, on a eu un certain nombre de populations qui n'étaient pas renseignées. Sur les aires d'accueil, en règle générale, il y a eu plutôt un bon renseignement, une bonne transmission de l'information. Il y a quand même des collectifs sur les aires d'accueil qui sont allophones, c'est-à-dire qui ne parlent pas français. Et là aussi, on a eu des problèmes. Donc, il y a eu des associations qui ont traduit les documents, notamment administratifs, etc. Et après, pour aller plus loin, moi, je connais aussi le cas des bidonvilles, beaucoup les bidonvilles roms. Il y avait tellement pas d'informations que les gens se sont enfuis. Ils se sont enfuis parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait, en fait. Voilà. Donc, il y a eu cette problématique-là aussi. Ouais. Donc, sur le traitement de l'information, on peut dire que globalement, l'information est passée, malgré certains problèmes d'accès aux canaux officiels, on va dire, d'information. Et sur les discriminations, en tout cas sur les répressions, alors, je vais dire l'avantage du confinement, c'est que les expulsions ont cessé. C'est-à-dire que les personnes qui étaient confinées en situation irrégulière, donc dans les terrains vagues, dans les parkings de supermarchés, etc., ont eu l'amabilité, pour une fois, qu'on les laisse tranquilles. Donc, elles se sont retrouvées confinées sur un parking de supermarché. Alors, je vous rassure, c'est pas très agréable non plus. Hein. On a permis l'installation d'eau et d'électricité à ces campements, souvent. Alors, on leur a permis cette installation parce qu'ils étaient visibles, évidemment, et que, vu qu'on considère que le gens du voyage est un propagateur d'épidémie potentielle, on a tout de suite pourvoyé à leur demande. Mais, des discriminations, en tout cas, des comportements, d'exclusion, etc., ont existé, évidemment. Moi, j'en ai constaté très dans la semaine qui a suivi la déclaration du confinement, vers le 20 mars, dans l'Ain, on a expulsé des gens des aires d'accueil. On a constaté des violences policières sur l'aire d'accueil d'Hélène Ronchin, avec un non-respect des gestes barrières dans un espace où les gens sont confinés collectivement. Ils sont rentrés, ils ont voulu procéder à une arrestation d'une personne. Ils ont tabassé tout le monde, ils ont insulté, ils sont arrivés surarmés à plusieurs dizaines dans des fourgons. Ils ont déboulé comme des balles sur l'aire d'accueil. Ils ont tiré dans les caravanes, donc tiré avec des LBD et dans des caravanes où dormaient des enfants. Ils ont giflé des gens, ils ont insulté. Bon, pour une fois, il y avait des vidéos, donc on a pu prouver ce qu'on disait. Mais ces comportements-là, si on en découvre un, on sait très bien qu'il y en a une vingtaine à côté qu'on n'a pas découvert. Et connaissant le traitement policier et administratif qui est réservé aux gens du voyage toute l'année en France, je suis absolument convaincu qu'il y a eu d'autres traitements de ce genre en France qui n'ont pas été mis en lumière.
Pour rajouter à ce tableau, hein, on a pu observer de notre côté la disparition du jour au lendemain d'un bidonville, d'un platz situé à la frontière entre Montreuil et Fontenay-sous-Bois, un endroit qui apparemment existait depuis assez longtemps, qui du jour au lendemain a été remplacé par des tas de sable.
Voilà.
De tas de sable type chantier, quoi. En plein confinement. En plein confinement, c'est ça que je voulais dire surtout. C'est que c'était en plein milieu du confinement, au moment où on est censé ne pas bouger.
Moi, dès le début du confinement, j'ai eu énormément de journalistes qui m'ont appelé et qui me posaient la question, ça les taraudait de savoir comment se passait le confinement pour les gens du voyage, donc ce qui paraît assez logique. Mais très vite, en fait, on venait sur des questions qui ressemblaient étrangement à des questions qui existaient déjà au début du siècle lors des précédentes grandes épidémies. C'est-à-dire, est-ce que ce sont des propagateurs d'épidémies? Et ça, on le retrouve dans les archives dès le début du siècle. Et c'est des questions qu'on m'a reposées là, actuellement, le mois dernier. Donc, est-ce qu'il y a un risque de propager l'épidémie par les gens du voyage? Et là, on voit, depuis le déconfinement, une criminalisation de la mobilité, avec un certain nombre d'élus qui prennent la parole en disant « c'est absolument honteux, j'ai 10 caravanes qui sont arrivées dans la ville, ils peuvent propager l'épidémie, etc. » Alors même que dans leur ville, il y a 1000, 3000, 4000 personnes qui, tous les jours, font des allers-retours dans les transports pour aller travailler. Donc, le danger, c'est les 10 caravanes. Par contre, les milliers de personnes qu'on oblige à travailler, qu'on est obligé à travailler au nom du capitalisme pendant le confinement, eux, pas de problème. Ils transmettent pas. Ça va. Voilà. Donc, on a là, on découvre. Et puis, depuis le 11 mai qu'ils ont déconfiné, les expulsions reprennent, les coupures d'eau reprennent, les comportements anti-tziganes sont lâchés. On remet aussi sur la table la question qui est une non-question des grands passages de estivaux. Alors voilà, on craint que cet été il y ait plein de grands passages, ils vont propager l'épidémie, comment on va faire, etc. Alors même que toutes les associations de grands passages ont annulé tous leurs grands passages de l'été depuis un mois. Mais on recommence à mettre ça sur le tapis, comme une vieille maraude électoraliste. En plus, on est en pleine campagne, donc ça tombe bien. On va parler des gens du voyage, on va dire qu'on les aime pas du tout, et puis comme ça, on va voter pour nous.
Oui, c'est une forme un petit peu d'hygiénisme sélectif ou de racisme hygiéniste qu'on observe aussi sur la question des bifins et des ferrailleurs et plus généralement des personnes qui récupèrent les déchets. Moi, j'ai observé ça en traitant ces questions-là dans cette émission ou dans d'autres travaux. C'est-à-dire que c'est les personnes qui récupèrent les déchets et qui les sortent des poubelles et qui les remettent en circuit, qui les réparent et qui empêchent qu'ils soient incinérés, qui sont considérées comme les personnes sales et propagatrices de vagues maladies, c'est jamais clair, hein, quel genre de maladie, quel genre de problème. Et donc ce sont ces personnes qui nettoient en fait les rues et qui réduisent le volume de déchets, qui sont considérées en fait comme les personnes qui salissent, et non pas les personnes qui jettent et qui jettent des choses qui auraient très bien pu être données, revendues, etc. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé sur cette question-là et qui nous permet peut-être de terminer sur un thème qui est assez cher à cette émission, qui est qui a le privilège de se voir décerner l'étiquette d'écologiste ou en tout cas de militant écologiste ou de quelqu'un qui va apporter un service écologique. Et je me demandais si dans les négociations des collectifs qui se sont montés pour défendre les gens du voyage, par exemple, vous citiez le cas de Hélème, qui est donc une aire d'accueil dans la banlieue de Lille, où il y a des femmes qui se battent depuis 2013. On avait fait une émission en février sur ce collectif. Est-ce qu'elles sont considérées comme des personnes qui sont engagées pour des questions écologiques? Est-ce qu'on leur décerne ce titre? Ou est-ce qu'on considère qu'elles ne sont pas prises dans une lutte écologique? Est-ce qu'il y a un privilège de ce titre qui fait qu'après, évidemment, les écologistes se demandent pourquoi ils sont toujours entre eux, blancs, de classe moyenne supérieure, et pourquoi est-ce qu'ils ont une sociologie si limitée, en fait. Est-ce que c'est pas justement parce que le titre d'écologiste est réservé à certaines personnes?
C'est tout le problème, c'est-à-dire que quand on traite de la question écologique et qu'on veut avoir de la donnée et qu'on veut avoir de l'expérience de terrain et tout ça, on fait pas appel aux gens qui la subissent. On fait appel à des associations ou à des experts. Et ça, c'est un peu tout le questionnement qu'on se pose depuis très longtemps. Nous, chez les gens du voyage, il y a énormément de personnes qui luttent contre des inégalités, des injustices, des discriminations environnementales sur le terrain, mais elles luttent de façon isolée. Leurs paroles est rarement recueilli. Là, le cas du collectif d'Hélène Ronchin, c'est vraiment un cas extraordinaire parce qu'on a des femmes nombreuses qui luttent avec vaillance depuis longtemps. Mais des gens qui luttent pour ces conditions écologiques, il y en a des tas. Il y en a des tas dans tous les départements. Et on associe toujours la question écologique, forcément, à des associations et des experts, ce qui fait que quand on a des gens qui, par ailleurs, luttent aussi contre un certain nombre de conditions sociales dégradées, etc., on considère qu'elles ne luttent pas pour la question écologique, mais qu'elles luttent pour leurs conditions sociales. Or, la question écologique est complètement indissociable de la question sociale. La question écologique, c'est pas que manger bio et acheter des paniers en lin. Ça va beaucoup plus loin. Je veux dire, la question écologique, c'est aussi l'accès à un habitat digne, c'est l'accès à l'eau, c'est l'accès à l'électricité, c'est l'accès à un environnement qui soit pas pollué. Je peux vous garantir que quand on prend le cas des femmes d'Hélène Ronchin, mais quand on prend le cas d'autres personnes, dans l'aire de Gex, dans l'Ain, on a des familles qui vivent dans une carrière. Qui sert aussi de site de brûlage de déchets toxiques, batteries, lithium, etc. Sans aucune réglementation, leur environnement est complètement pollué. Et ils deviennent fous parce que les vibrations et la poussière est telle qu'ils ne peuvent même plus parler sur l'air. Ils peuvent plus manger dehors, ils ont de la poussière qui leur rentre dans le nez, ça les rend dingues, ils n'arrivent même plus à réfléchir. Et ça, ce sont des réalités. Vous pensez vraiment que ces gens-là ne se battent pas contre ces conditions-là ? Bien sûr qu'ils se battent contre ces conditions-là. Et les gens les plus à même pour parler de l'écologie dans cette région, ce sont ces gens-là. Ce sont les gens qui le subissent. Et quand on se rend compte que les gens qui subissent ces discriminations environnementales sont toujours les mêmes, soit des gens extrêmement précaires, soit des gens majoritairement racisés, eh ben oui, on se rend compte qu'il y a un système aussi. Et toute l'idée aujourd'hui, c'est de faire émerger ces mouvements grassroots, en fait, ces mouvements de terrain, de les mettre en correspondance les uns avec les autres pour qu'ils se sentent plus seuls, de faire évacuer aussi une certaine peur, parce qu'il faut pas oublier que quand une personne subit des discriminations environnementales, par ailleurs, elle subit très souvent des pressions administratives et policières. La plupart des gens, moi, que je connais qui sont dans des situations de discrimination environnementale, ils subissent des menaces par le maire de la ville qui leur dit « si vous parlez trop, je vous coupe l'eau. Si vous parlez trop, je détruis votre chalet. Si vous parlez trop, je vous expulse. Ici, la loi, c'est moi. Si vous aviez un chenil à côté de chez vous, peut-être que je mettrais l'eau. » Ça, c'est ce qu'on m'a dit la semaine dernière. Voilà. Donc ça, ce type de comportement raciste, on l'a partout. Et il est toujours, il vient toujours très très souvent en concordance de temps avec les discriminations environnementales. Voilà. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de donner la parole à ces gens-là. C'est pour ça que moi, mon recensement, il est accompagné de recueils de témoignages. Et ça m'intéresse pas de savoir ce que l'association écolo du coin pense, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que les gens qui vivent ces injustices environnementales pensent, comment ils le ressentent, comment ils peuvent donner des mots à une cartographie qui est froide, et comment ils peuvent dire, voilà ce que c'est que de vivre dans une carrière. Voilà, mon fils est malade, il a de l'asthme, ma femme est fragile, on a des maladies chroniques de peau, on n'arrive pas à se concentrer, on a des vibrations tout le temps, on essuie 1 cm de poussière par jour, on tousse, etc. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qu'il faut mettre en lumière aujourd'hui. Et c'est ces gens-là qui doivent porter les combats écologiques aujourd'hui. Et il n'y a que comme ça qu'on ouvre, en fait, les questions de justice environnementale et qu'on ouvre des portes vers d'autres questions. Et qu'on se rend compte que la justice environnementale, c'est pas seulement des questions environnementales, c'est aussi des questions sociales, c'est aussi des questions de racisme, c'est aussi des questions qui sont extrêmement variées. L'accès à l'école fait partie de la justice environnementale. Quand vous vivez sur une aire d'accueil qui non seulement est polluée, vous avez par ailleurs des régimes d'expulsion tous les 3 mois qui font que un accès à l'école présentielle est très compliqué. Aujourd'hui, vous avez près de 100 000 enfants en France qui ne sont pas scolarisés, dont beaucoup de gens du voyage, d'enfants du voyage. Donc toutes ces questions-là, en fait, elles se recoupent. C'est pas des questions séparées. Et pour rassembler les combats et pour faire en sorte qu'un mouvement puisse émerger et faire de la lutte, il faut forcément avoir la parole de ces gens-là qui soit mise en avant.
On ne saurait mieux dire. Merci beaucoup, William Acker, pour vos réponses. On va se quitter bientôt. Peut-être est-ce que vous pouvez nous laisser un contact ou un endroit où on peut lire vos textes. Je crois que vous êtes très présent sur Twitter.
Ouais, c'est William Acker ou Rafumab, R-A-F-U-M-A-B. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, je ne sais pas.
Ok, eh bien, on ne demandera rien. On va tout simplement se quitter là-dessus. En musique, bien sûr, avec un autre morceau que vous nous avez proposé. Schneckenack Reinhardt, Chavo. Bonne soirée à toutes et à tous.
kai chais kai mo juve tu pendal kai dikala pale pen mange tu kai chamo tu jine kai kamaula pale pen mange hoske joy mukes man Da cine ți-ai docova amanei Pale vel ți-ai docpane amirozi Ciamo pale pen male hosche Ioi chiar descava pagre Ciao docova amanghi Vale vel ciao docvale An mi rosi Ciao Vale pen mane hoske Joi che descava Pagre